trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissier est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Merci d'être là. Adil Amor nous accompagne également. Bonsoir Adil. Vous êtes directeur général de Schelcher Prince Gestion et à vos côtés Florent Delorme. Bonsoir Florent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments. Je le disais, les marchés qui réagissent aux résultats des élections européennes dans leur ensemble et au sort spécifique de quelques pays, la France en tête peut-être, Adil. Quel est le rationnel des réactions de marché qu'on a décrit avec Pauline il y a quelques instants? À quoi les investisseurs réagissent-ils spécifiquement en ce lundi?
Notre perception, c'est que aujourd'hui, enfin, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé sur l'OAT, donc à 10 ans, ou sur, on va dire, le secteur bancaire français, BNP, Société Générale, évidemment, en tête de liste, il y a une surréaction, ça c'est vraiment notre interprétation, du résultat des scrutins de l'élection européenne. Ça, c'est quelque chose de fondamental, avec, encore une fois, des aspects un peu techniques. On va dire, il y a une nouvelle qui n'est pas très positive d'un point de vue cohésion de l'Europe. Ben, on vend tout ce qui est actif, risqué ou semi-risqué en lien avec la France. À mon sens, et en tout cas au niveau de Schelcher Prince Gestion, il y a un peu de surréaction, notamment sur le secteur bancaire. Mécaniquement, c'est le premier secteur qui est touché. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est régulé, qui est réglementé. Donc forcément, on se dit qu'il pourrait y avoir des taxes sur les super dividendes, ce type de choses, comme il y a pu y avoir en Italie. Et on en a parlé aussi, tout ce qui est BTP, les autoroutes, etc., EFH, Vinci, ça suit mécaniquement.
Donc c'est assez rationnel. Voilà. Il y a une surréaction, mais la logique de marché, elle n'est pas illégitime de ce point de vue-là.
Encore une fois, l'interprétation qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le marché craint un risque géopolitique en termes de cohésion européenne.
D'accord.
Donc on vend.
Très clair.
Est-ce que l'amplitude est exagérée? À mon sens, ouais. Sur les titres equity ou sur les spreads de crédit, et non pas sur l'OAT, ouais. À la limite, ça peut justifier. En tout cas, sur la partie risquée, on va dire idiosyncratique, là, à mon sens, il y a un tout petit peu d'exagération et d'exacerbation des marchés.
Mais là, vous décrivez quelque chose qui n'est pas juste le cas spécifique français. C'est les résultats généraux et l'image renvoyée du nouveau Parlement européen qui font que les investisseurs ont un peu plus de défiance en général vis-à-vis de la cohésion européenne aujourd'hui.
En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les marchés, parce que quand on regarde tous les ténors des courbes de taux européennes, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne,
tout bouge.
Tous s'écartent par sympathie. Ouais. Et l'Italie, d'ailleurs, s'écarte plus que la France. Voilà, donc on remet en cause le sujet de la cohésion, et on sait très bien que demain, une Italie avec quelques difficultés vis-à-vis de l'Europe, eh ben, en termes de refinancement et de la gestion dette sur PIB, ben, c'est pas la même histoire.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites le marché remet en cause l'idée de la cohésion européenne? Parce que quand on regarde quand même la big picture au Parlement européen, alors oui, il y a un peu de mouvement, il y a un peu de rebalancement à la hausse des droites dures, extrêmes, souverainistes, etc. On les appelle comme on veut. Mais au final, le bloc centriste majoritaire reste très largement majoritaire. Et de ce point de vue-là, je veux dire, l'image n'a pas fondamentalement bougé.
Ça, je partage totalement. Ça, c'est l'analyse très rationnelle des chiffres de la composition du Parlement. Très bien. Maintenant, le marché aujourd'hui, encore une fois, on était dans une phase un peu de complaisance, si je puis dire, sur les actifs risqués, même sur les taux, avec un focus très, très marqué sur l'inflation, sur la croissance, sur les politiques monétaires. Bah, le risque géopolitique revient.
Ouais.
Et si on se remémore un tout petit peu ce qui s'était passé en Italie avec l'élection de Mme Meloni, et bah, in fine, on retrouve des patterns de marché très similaires. Écartement fort des taux, généralisé sur les périphériques, et le secteur bancaire très attaqué. Ouais. Voilà. Donc, un peu de surréaction, mais encore une fois, à mon sens, sans vouloir jouer la boule de cristal,
non.
Ça devrait se normaliser un tout petit peu quand même dans les semaines qui viennent.
Ouais, ouais. Bon, bah, on évoquera. C'est vrai que le cas Meloni a été un cas intéressant. Il y a eu le cas Truss aussi au Royaume-Uni. Mmh. Rappelons-le aussi, hein, le Royaume-Uni votera le 4 juillet. Bon, visiblement, les élections générales anticipées au Royaume-Uni n'ont pas l'air de provoquer les mêmes questionnements peut-être que ce qui s'est passé en Europe et ce qui se passera en France dans les prochaines semaines. Votre lecture chez MNG de la situation et de ces mouvements de marché? Encore une fois, en tant qu'investisseur, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le rationnel des réactions de marché qu'on observe depuis ce matin, Florent.
Alors, effectivement, la lente montée en puissance de forces politiques peu libérales et peu favorables au marché en général semble expliquer une réaction un peu spontanée de correction à la fois sur les marchés actions et également sur le niveau de taux d'intérêt. Après, pour ce qui nous concerne, effectivement, si on en reste aux faits bruts tels que vous venez de les expliciter, à savoir qu'on a certes un bloc de droite radicale qui prend un peu plus d'importance au Parlement européen, mais qui, dans les faits, aura une capacité d'action assez limitée. Il y a assez peu de chances que ça remodèle complètement la politique européenne, d'autant plus que le Parlement lui-même n'est pas l'institution la plus importante du dispositif européen. Ça reste quand même la Commission européenne. Donc on a du mal à considérer qu'on est face à une menace réelle quand on regarde à l'échelle européenne ce que représente politiquement l'avènement un peu plus spectaculaire qu'auparavant de ces forces politiques. Et puis, on peut ajouter aussi, effectivement, dans le cas français, puisque vous l'indiquiez à l'instant, dans le cas français, l'annonce de législative anticipée accentue un peu la pression sur les actifs français. Voilà, une élection européenne n'est pas une élection législative dans ses enjeux. Donc, l'électeur n'a pas toujours le même comportement dès lors que les enjeux ne sont pas les mêmes. Les scrutins sont pas les mêmes non plus. La percée du Rassemblement national ne s'éditera pas sans doute dans les mêmes proportions dès lors qu'on est sur des scrutins à deux tours. Et quand bien même dans les scénarios que le marché n'aimerait pas, quand bien même on aurait effectivement une légère majorité qui se dessinerait en faveur de ces forces d'opposition, l'exemple italien avec l'arrivée de Meloni au pouvoir montre que c'est une chose d'arriver en partie au pouvoir, c'en est une autre de bouleverser les équilibres institutionnels et économiques en place.
Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de l'expérience Meloni depuis son accession au pouvoir en Italie, si ça doit être un template ou un schéma effectivement qu'il faut regarder aujourd'hui?
Voilà. Et puis, je terminerai en disant que de toute façon, ces droites radicales sont elles-mêmes divisées à l'échelle européenne. On voit bien que Marine Le Pen et Meloni ont des désaccords, qu'elles ne sont pas forcément en phase sur la manière dont elles peuvent accorder leur politique à l'échelle européenne. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments pour relativiser le scrutin d'hier. Et pour nous, effectivement, si risque géopolitique il y a, il n'est pas vraiment de ce côté-là. Il est plus du côté du conflit ukrainien, avec les bouleversements spectaculaires que ça occasionne en termes de réindustrialisation, de réarmement, de commerce international.
Les sujets lourds et de fond sont toujours là,
Exactement. Et ces sujets lourds et de fond, de notre point de vue, dépassent la percée de ces forces d'opposition. En tout cas, la réaction des marchés aujourd'hui correspond effectivement à ce signal, mais devrait s'amoindrir dans les jours qui viennent, à mesure que l'analyse que je viens de développer sera assez largement partagée, y compris par les investisseurs internationaux qui, au premier regard,
comprennent
la situation française ou européenne, mais qui, les semaines passant, reviendront à des analyses.
Mais la leçon de Meloni pour les investisseurs, c'est quoi justement, Florent?
La leçon de Meloni, c'est que elle a été conseillée par des gens qui venaient de la sphère de Mario Draghi, et qu'il y a plus effrayant pour les marchés, et qu'elle est elle-même
assez orthogonale avec un certain type de discours qu'elle pouvait tenir elle-même, son parti, etc., avant d'accéder au pouvoir. C'est ce que vous dites.
Tout à fait, parce que le réel se rappelle aux mouvements d'opposition lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Il faut financer une économie. Pour financer une économie, effectivement, il faut avoir un certain nombre d'indicateurs financiers satisfaisants pour que le marché continue à vous soutenir, sauf à engager un mouvement extrêmement difficile à réaliser de sortie de la zone euro, mais qui lui-même comprend...
J'ai l'impression que ça n'a pas été le sujet, là.
Voilà, mais effectivement, ça n'a pas été le sujet. Et dans le cas de la France, c'est définitivement pas le sujet du Rassemblement national qui a clarifié la question. il y a déjà de nombreux mois. Et en fait, cela aurait pu effrayer les marchés. C'est-à-dire que si on avait un parti qui explicitement annonçait vouloir sortir de la zone euro, on est dans un autre cadre. Alors, ce n'est pas du tout le cas, et l'électorat du Rassemblement national n'en veut pas non plus. Donc, tout ça borne quand même les craintes et les angoisses qu'on peut avoir.
Sans compter, comme vous l'avez dit, effectivement, un cadre budgétaire, une situation budgétaire en France qui limite, voire annihile, toute marge de manœuvre, en tout cas à court terme. Gilles, sur l'idée des marchés et de la politique, et notamment de la politique européenne. C'est vrai qu'on a beaucoup décrit ces élections comme étant un non-événement attendu. Ce ne sera pas un market mover. La vraie élection, c'est le 5 novembre, l'élection américaine. Ça reste sans doute vrai. La grosse élection est encore peut-être devant nous de ce point de vue-là. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas d'absence de réaction de marché aux résultats qu'on a vus hier soir, et au niveau européen, et en France.
Alors je concours à l'analyse qui a été faite sur les faits, sur les équilibres au Parlement européen. Néanmoins, il y a quand même des conséquences qui sont inattendues sur un pays cœur en Europe. Et cœur a beaucoup de titres. Parce que la France est considérée, à tort ou à raison, comme étant ayant été un moteur actif de la construction européenne, de la construction de la zone euro, mais également par une forme de leadership politique que Emmanuel Macron a pris récemment, avec une intensité croissante sur divers sujets de géopolitique mondiale. Et je dirais que la dissolution de l'Assemblée vient, affaiblir assez sensiblement quand même la position institutionnelle de la France dans sa capacité à être prévisible, constante, et donc quant à la valeur de sa parole et de ses engagements. Et il me semble que les conséquences qu'on a sur les marchés au global sont plutôt liées à cette incertitude française, en fait, dans un contexte...
Vous comprenez dire, il y a quand même une accumulation de petits signaux faibles qui peuvent modifier la perception que les investisseurs globaux pourraient avoir de la France.
Moi, je le pense. Alors, il ne s'agit pas on n'a pas une boule de cristal, on n'est pas non plus ni payé, ni avoir un historique d'expérience professionnelle pour être un analyste géopolitique. Mais par contre, ça ne vient pas à un très bon moment, je trouve, quant au niveau de l'attractivité des marchés européens, des marchés américains, des marchés actions, des pays développés, et tout ce qui contribue à retendre les taux des obligations et à introduire une forme d'incertitude dans le progrès vers des baisses de taux courts, dans un contexte où en effet, vous l'avez rappelé à juste titre, les marges de manœuvre non seulement sont inexistantes, mais sont même plutôt négatives.
Oui, faudrait consolider un peu, oui.
En termes de finances publiques et en termes de...
Alors, ça dépend des pays dont on parle.
Ça dépend des pays dont mais du principal dont on parle, oui. La France aujourd'hui.
Oui.
Faire soulever des espoirs de modification du cap au moment où les marges de manœuvre sont au mieux nulles, ça nous amène en effet dans un scénario potentiellement soit à l'atroce, soit à une plus grande difficulté structurelle de gouverner la France. Et ça, en tant que tel, c'est pas bon, pas seulement pour les actifs français, mais pour
l'Europe,
la zone euro, au moins de la zone euro en général.
Ce qui est un peu perturbant aussi, si je puis dire, Adil, c'est que cette prime politique qui s'exprime là aujourd'hui, elle intervient alors que la macro s'améliore en zone euro, en Europe, qu'on a un petit redécollage après 2 ans de stagnation de l'activité économique, qu'on a une banque centrale qui, après une phase d'hésitation, a décidé d'initier son mouvement, la première, sans attendre la réserve fédérale américaine, apportant là aussi l'espoir, en tout cas, d'un peu plus d'huile dans les rouages. Donc c'est vrai qu'on se disait, sur le plan un peu fondamental, macro-monétaire, on a le début d'un alignement de quelque chose quand même qui pouvait redonner de l'intérêt aux actifs européens.
Je partage totalement et en fait, on était encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, non, c'est pas de la complaisance, mais un petit peu quand même avec des... Tout allait bien, la macro en plus qui s'améliore, ouais. La BCE qui baisse ses taux comme elle avait dit, la Fed, on va voir, est-ce que c'est en septembre, décembre, etc. Bref, tout se mettait en place à peu près progressivement et on a encore une fois le risque géopolitique. Voilà, qui rôdait à droite ou à gauche, ouais, mais qui ressurgit de façon très factuelle. C'est dommage et c'est, on va dire, la tâche ne va pas être simple pour la BCE aussi par rapport à l'euro-dollar. Ouais. Encore une fois, un euro-dollar qui baisse, ouais, potentiellement c'est de l'inflation apportée, ouais, c'est quelque chose qui n'était pas pricé au niveau des projections de Mme Lagarde. On va voir si c'est un update ou pas, sachant que lors de la dernière réunion, Mme Lagarde quand même a revu à la hausse les projections d'inflation en 2025, très légèrement, mais quand même ça a été revu à la hausse. Bref, la donne n'est pas simple aujourd'hui à gérer, surtout qu'on part d'un risque de politique monétaire, on part d'un risque géopolitique, il y a la croissance, mais tout ça c'est des vases communicants. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui, on va dire, qui rappelle quand même au marché, la prime de terme, elle existe et il y a plein de facteurs qui permettent de la reconstituer et c'est quelque chose de fondamental.
Ouais. C'est vrai que si l'euro devenait le réceptacle d'un risque politique accru en Europe, demain, ça deviendrait un problème pour la Banque Centrale Européenne, indépendant de sa volonté, hein, mais ça pourrait devenir une entrave ou un problème à la Banque Centrale Européenne dans sa séquence de baisse de taux.
Bah, encore une fois, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, l'objectif numéro un, c'est une maîtrise de l'inflation. Voilà. Comme je l'ai dit, ça a été revu légèrement à la hausse. La croissance, ça s'améliore avec une inflation qui baisse, une désinflation progressive. Maintenant, si demain, les taux longs et donc les primes de terme se reconstituaient massivement, une baisse des taux courts, des courbes trop pentues, on devient dans un domaine très restrictif pour le financement et le refinancement des entreprises. Ça peut tuer la croissance.
Ouais, je comprends. Voilà. La baisse des taux courts, c'est bien, mais si en face de ça, on a une augmentation de la prime sur les taux longs, ça annule les efforts d'une certaine manière que peut faire la Banque Centrale Européenne.
Si la prime de terme augmente trop, ça peut être contre-productif parce qu'on va tuer la croissance, effectivement.
Ouais. Bon, sur le signal envoyé par les banques centrales, et à commencer par la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, quels ont été là aussi les enseignements que vous en avez tirés chez MNG, Florent Christine Lagarde a du mal officiellement à nous dire que c'est quand même le début de quelque chose, mais bon, imagine bien que s'il y a une première baisse de taux, c'est au moins pour qu'il y en ait une deuxième, voire une troisième. Enfin, de ce point de vue-là, il y a de la marge, quand même.
Oui, pour nous, la tendance est quand même installée. La baisse de taux qui a été effectuée annonce les suivantes, même si la Banque Centrale, elle est dans son rôle, ne peut pas... donner trop d'énergie au marché en lui indiquant qu'on s'engage dans un cycle assez significatif. Donc, qu'il y ait encore de la prudence dans la communication de la Banque Centrale ne nous semble pas forcément surprenant. Mais que la tendance soit à la baisse des taux, ça nous semble, un fait assez probable, dans la mesure où on a quand même une inflation qui s'est résorbée à des niveaux qui sont raisonnables. Alors, à quel niveau l'inflation va se stabiliser, c'est effectivement encore difficile à dire. Elle se stabilisera sans doute à des niveaux supérieurs à ce qu'on a pu connaître avant l'épisode Covid et crise ukrainienne. Mais bon an, mal an, on sera sur des niveaux d'inflation entre 2 et 3%.
Oui, on n'est plus à 10. Quoi.
Ce qui autorise quand même de baisser les taux directeurs dans la zone euro. Et ce, d'autant plus que la tendance longue, c'est quand même de gérer cette contradiction entre d'un côté la nécessité d'investir massivement sur les thématiques que j'évoquais tout à l'heure, ouais, transition énergétique, réindustrialisation, défense au sens large et même protection sociale avec le vieillissement de la population. Et on voit difficilement comment les politiques vont pouvoir éconduire ces projets. Donc il y a une seule variable d'ajustement, c'est quand même globalement de piloter la courbe des taux à moyen long terme afin de pouvoir permettre ces financements quand bien même l'inflation serait à des niveaux supérieurs à ce qu'on pourrait escompter. Donc il nous semble qu'au-delà des discours des banques centrales à horizon 3-4 mois, il y a des tendances de fond qui quelque part là aussi encadrent la politique des banques centrales, parce que l'hypothèse d'un raidissement durable des banques centrales, de politique monétaire durablement au quiche pour terrasser une inflation qui n'a pas que des inconvénients, puisqu'elle permet aussi de réduire le ratio dette sur PIB. Ce deuxième scénario, qui serait celui finalement de politique très austéritaire, nous semble politiquement peu probable dans la zone euro, et donc la Banque Centrale Européenne, de notre point de vue, n'a pas trop le choix, baissera ses taux, quand bien même l'inflation resterait à des niveaux un peu supérieurs à ce qu'on avait. Donc oui, la première baisse annonce les suivantes, et on a sans doute de bonnes nouvelles devant nous.
Et ça change quoi, alors, stratégiquement, j'allais dire, pour les actifs européens, au-delà de la période d'incertitude politique qui s'ouvre spécifiquement en France, là, pour quelques semaines, etc. Mais le fait qu'on ait cette conviction, quand même, sur la capacité de la BCE et la nécessité pour la BCE d'aller un peu plus loin, quand même, dans le chemin des baisses de taux, qu'est-ce que ça change pour le cas d'investissement européen ?
Ça peut donner une certaine confiance dans le fait qu'il n'y a pas d'incident de marché significatif possible ou probable dans les mois qui viennent, dès lors qu'on a une banque centrale qui réintroduit de la liquidité en baissant les taux directeurs. Ça constitue une sorte de filet de sécurité sur la valorisation des actifs, actions ou crédits. Quand bien même on pourrait avoir quelques corrections, quelques respirations, mais l'idée qu'on soit en bulle sur ces actifs-là nous semble difficile à défendre dans un contexte où on va sortir du cadre de restrictions monétaires. Donc ça donne quand même une certaine confiance dans le fait qu'on peut acheter du rendement au niveau actuel. Porter du rendement dans la durée sera sans doute une bonne opération. Ça donne aussi confiance dans les actions européennes qui sont à des niveaux de valorisation, certes dans la fourchette haute des moyennes qu'on a pu observer, mais pour ceux qui ont peur de la volatilité associée au secteur technologique, en achetant le marché européen, finalement, on peut acheter le marché des actions en s'affranchissant un peu peut-être de ce secteur de la techno qui nourrit tous les débats. Donc oui, nous, on est plutôt confiants dans le fait que les actifs européens sont finalement des solutions pour des investisseurs qui veulent s'éviter les questionnements sur tech ou pas tech US.
Oui, je comprends. D'accord. Oui, c'est un bon univers, effectivement, pour des investisseurs qui auraient besoin de se diversifier un peu, par exemple.
Diversifier
aujourd'hui.
Et qu'ils soient plus conservateurs dans leur approche.
Plus conservateurs dans leur approche. Voilà. Justement, là, comment vous regardez les cas d'investissement, hein, les grands cas d'investissement, les États-Unis, donc la tech, l'Europe avec la BCE aujourd'hui, le reste du monde, bien sûr, avec les outils écoutilles GPS. Qu'est-ce qui ressort, là, quasi début de second semestre,
hein. On a actuellement des ratings faibles à très faibles sur les marchés actions des pays développés.
Ouais.
Europe, zone euro, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour. Et on range encore Hong Kong dans les pays développés. Enfin, c'est pas nous, c'est la nomenclature usuelle. À l'inverse, on a de très bons ratings, mais sur des pays complexes à analyser et qui ne lèvent pas l'unanimité, qui font pas l'unanimité, comme la Chine et le Brésil.
Ah, intéressant.
Et où là, il y a des niveaux de valorisation avec la baisse des cours des actifs qui les rend très attractifs. Et dans le cas du Brésil, c'est un mélange de baisse des cours et de légère instabilité politique quand même après un retour de Lula au pouvoir qui rend le Brésil au global pas très attractif pour les investisseurs institutionnels mondiaux sensibles au risque, mais du coup ça creuse des valorisations qui deviennent agressives.
Et ça se reflète dans les ratings écoutes GPS.
Dans nos ratings de valorisation. Voilà, donc on a un cas particulier qui est l'Inde, qui là a un rating faible, donc de type de marché développé.
Après, parce que c'est cher.
Après la hausse fantastique, ouais. Hein, et la performance excellente du marché indien. Voilà. Alors après, nous, on aime bien croiser cela avec des indicateurs de sentiment de marché. Oui.
Justement, est-ce que l'ambiance est propice à voir un retour massif des investisseurs sur des zones comme la Chine ou comme le Brésil, par exemple ?
Alors, ce sont deux classes d'actifs géographiques qui ont un sentiment de marché neutre. Donc, on ne perçoit pas à ce stade d'entrée massive,
hein,
ou de début d'entrée, en tout cas, par de très gros investisseurs institutionnels. Même si on peut penser que pour les Occidentaux, il est probable que la baisse des allocations d'actifs sur la Chine ait été faite par les investisseurs longs et que la baisse des allocations allouées à la Chine, à mon avis, est quelque chose qui est fait. Mais maintenant, est-ce que il y a des ouvertures pour aller dans le sens inverse ? À ce stade, non, et en particulier sur les banques. Hein, faut bien reconnaître que maintenant, on a eu des instructions assez importantes de Xi Jinping d'augmentation de l'influence du Parti communiste sur la stratégie des banques chinoises, hein, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et ce qui est un petit peu un reflet, d'ailleurs, avec ce qui se passe aujourd'hui sur...
le risque politique se retrouve généralement souvent dans un secteur comme le secteur bancaire et financier en premier.
Ouais. Ouais. Donc, pour ce qui concerne les secteurs, les secteurs qui ont des ratings un peu au-dessus de la moyenne et constructifs au niveau mondial sont des secteurs plutôt défensifs.
Ah.
Avec notamment la santé, mais d'autres aussi. Alors que la tech souffre pour nous d'un rating très faible. Et quand on regarde les sous-secteurs au niveau de la tech, là c'est très contrasté et on commence à voir déjà de fortes baisses sur certains sous-secteurs. Pas les semi-conducteurs, bien sûr.
Les logiciels, est-ce qu'on a eu
absolument, ouais. Les logiciels et les services informatiques.
Sur lesquels... C'est quoi, c'est un signal de prudence, quand même, de méfiance
Enfin, au global, oui, de toute façon, sur ce secteur-là, où on a où le monde des investisseurs et deviennent un peu... non pas bipolaire, mais très contrasté dans leur appréciation de croissance quasiment infinie à partir du hardware et des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, alors même qu'on a encore à ce stade des preuves de concept pour monétiser des applications réelles d'intelligence artificielle, autant auprès des particuliers que des entreprises.
Qui sont loin d'être faits.
Qui sont encore à démontrer.
Oui, c'est ça. Oui.
Hein, qui demeure encore à être produite. Et on sait que les semi-conducteurs, c'est quand même un bien d'équipement, donc ça réagit à la dérivée seconde et non pas à la croissance seule.
Ouais.
Et on peut très bien continuer d'avoir une croissance à terme avec une dérivée seconde qui devienne négative. Auquel cas certaines sociétés pourraient commencer.
Et qui boursièrement pourrait être douloureux, effectivement.
Ah oui, très douloureux.
Très douloureux.
C'est un secteur qui est prône au risque. Hein, ouais. Il y a une très grande volatilité en matière de cours. Donc au global, nous, on conseille à nos clients de bien vérifier, à la lumière des derniers événements, la tolérance au risque action de leurs clients finaux et des prescripteurs de leurs clients finaux. Hein. Il est utile, hein, de faire des points réguliers avec ces...
S'assurer que le client final a bien compris ce que c'était que le risque action.
Non, mais il est à l'aise,
à l'aise. D'accord.
Avec ce qu'il a dans ses portefeuilles.
J'entends. C'est un bon moment, vous dites, pour valider ça et revérifier ça auprès du client final.
Oui, parce qu'on s'habitue insidieusement à la hausse des marchés actions. Ouais. Je vous rappelle, il y a 2 ans et demi, quel niveau de marché actions on avait et quel était le niveau général d'optimisme des investisseurs sur le marché actions. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut.
Oui.
Aujourd'hui, et donc est-ce qu'il n'est pas, temps de 1) vérifier l'appétence et 2) de refaire tourner ses abacs en ce qui concerne sa propre allocation d'actifs conseillés auprès de ses clients et de la constitution défensive et offensive de ses portefeuilles.
Ouais. Adil, là, comment on se projette, effectivement, là, sur les prochains mois, sur la séquence estivale, on a parlé du risque politique, mais il y a tout ce qui va nous accompagner encore. Ouais. Mais, et toujours ce risque politique avec l'élection américaine du 5 novembre, hein, qui sera quand même, j'imagine, un rendez-vous pour les investisseurs importants. Dans quelle logique d'investissement vous avez envie d'être aujourd'hui chez le Sharprince?
Alors déjà évidemment, donc on vérifie que les clients ont bien compris le risque qu'ils portent. Ça, je répète, vous avez parfaitement raison.
Non, mais, c'est un bon moment pour le faire. Et c'est intéressant.
Et je partage. C'est au moment où on va dire qu'il y a quelques difficultés sur les marchés qu'il faut bien vérifier que les porteurs, ils comprennent le risque. C'est pas quand tout va bien en ligne droite de façon linéaire et affine. Pardon. Ouais. Parenthèse fermée. Alors effectivement. Encore une fois, là, ce qui s'est passé avec les élections européennes, et notamment le cas français, ça donne un peu les prémices de ce qui pourrait arriver avec l'élection américaine. Voilà. Ça, en tout cas, aujourd'hui, on a vu l'impact potentiel d'un risque géopolitique et sa matérialité sur les marchés. Voilà. Ce que ça, on va dire, implique et ce que ça a à faire en termes de positionnement, il faut être protégé un petit peu. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, classe d'actifs par classe d'actifs, bon, les taux, moi je reste convaincu, et chez Schelcher on l'est de façon assez marquée, on est dans des ranges, dans des intervalles. Voilà. L'Allemagne c'est entre 2,30, 2,70, 2,75, voilà, ou 2,77 si on veut pousser l'épaisseur du trait. Les États-Unis 4,30, 4,70, on varie, il y a des espèces de paliers aujourd'hui qui ont été définis.
On n'est plus en terre inconnue de ce point de vue-là.
C'est mon avis, à part un chiffre d'inflation qui ressort à 10% personne n'aura anticipé.
Ouais, j'entends.
Voilà. Maintenant, quand on regarde le marché du crédit, vous savez, Grégoire, c'est un marché qui nous est extrêmement cher.
Les taux, historiquement en tout cas, je suis en train de gestion, bien sûr.
Donc, marché du crédit aujourd'hui, j'ai envie de dire, le lundi 10 juin, c'est le jour où il faut se renforcer. Je m'explique, on a dans une logique de portage et de constitution de portage, on a des spreads qui s'écartent, des taux qui augmentent, on a envie de reconstituer du portage dans des dossiers, dans des noms qu'on aime bien. Que ce soit les bancaires, que ce soit même des compagnies aériennes, le secteur des cimenteries aussi. Il y a vraiment aujourd'hui des boîtes, fondamentalement, qui ont démontré leur résilience, avec une macro européenne aussi qui tient. Forcément, on en profite pour se renforcer.
Et vous dites là aujourd'hui, ces boîtes-là, les souches qui sont sur le marché, on parle de crédit, dettes de ces entreprises, elles souffrent injustement du résultat d'une élection avec laquelle elles n'ont rien à voir. Quoi.
En fait, prenons le cas de BNP Paribas. Ouais. Voilà, une souche, par exemple, BNP Paribas, même en dette subordonnée ou en dette senior. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un doute sur la capacité à BNP Paribas de se refinancer à horizon 3-4 ans? La réponse est strictement non. Est-ce que le marché peut encore surréagir et faire que les spreads s'écartent? Ouais. Peut-être. Mais si j'embarque 6 de rendement ou 6,5 de rendement sur 3 mois, même si les spreads s'écartent de 50 points de base, je ne perdrai jamais d'argent. Hmm. Voilà, c'est cette logique-là qui est fondamentale sur le crédit. Et encore une fois, sur le marché du crédit, en mettant de côté quelques dossiers très spécifiques, les performances sont au rendez-vous. Il y a des restructurations, mais on va dire nouvelles donnes. Aujourd'hui, on ne fait plus défaut. On négocie avec les créanciers, comme ça a été le cas avec Altice, c'est en cours. Oui. Ça, c'est entre parenthèses. Voilà. Mais donc, le marché du crédit, clairement aujourd'hui, un vecteur fondamental où on est investi, exposé de façon protégée. Et sur le marché actions, là où on pouvait être avec un biais, on va dire, sur notamment les bancaires ou sur la tech, c'était la première partie de l'année.
Les deux meilleurs secteurs de l'année, toujours en Europe.
Tout à fait. Là maintenant, dans le contexte actuel, et avec les niveaux de valorisation et la performance, la trajectoire qui s'est matérialisée jusqu'à maintenant, on est un peu plus équilibré.
D'accord.
On pense que les proxys obligataires...
D'accord.
Voilà.
Même côté défensif dans les marchés actions doit être un peu mieux valorisé peut-être...
Défensif et même le secteur immobilier.
Ouais. Voilà. Oui, d'accord. Voilà,
les proxys,
d'accord.
Les utilities aussi, il y a des choses à faire et à être plus équilibré en barbel dans les portefeuilles.
Ouais. Voilà. Florent, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment chez MNG, dans l'idée d'une allocation, effectivement? Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise pour investir? Où est-ce que vous êtes un peu plus méfiant peut-être que d'autres?
La classe d'actifs qu'on privilégie, c'est d'abord la dette souveraine, puisqu'effectivement, on pense que au niveau du 10 ans américain ou même des 10 ans français, on a du portage assez confortable. Donc, c'est pas effectivement la classe d'actifs la plus originale, mais elle a le mérite d'offrir des taux d'intérêt qui nous semblent cohérents avec la conjoncture actuelle. Donc, on aime bien la duration.
Est-ce que c'est une forme d'appel, après chaque cas est particulier, mais de dire attention, si vous êtes beaucoup investi en monétaire, regardez effectivement, il y a peut-être un risque de duration intéressant à prendre aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de flux sur des produits très courts, à terme, monétaires, etc. Là, vous dites, c'est le moment peut-être d'anticiper le prochain mouvement, quoi.
Oui, puisque comme je l'indiquais tout à l'heure, nous on fait le pari que la tendance c'est quand même à la baisse des taux directeurs et donc les niveaux de rendement qu'on peut avoir sur des maturités de 5-7 ans nous semblent attractifs. Après, si on regarde la composante spread, on a toujours effectivement du crédit corporate, mais dans des proportions un peu moindres, on est sous-pondéré parce que les primes de risque pour la dette corporate sont moins alléchantes qu'elles ne l'étaient il y a un peu plus d'un an. Donc on réduit un petit peu les positions sur cette classe d'actifs, mais sans pour autant en sortir. Mmh. Et puis dans l'univers action, là, conformément à ce que j'indiquais aussi tout à l'heure, on a un style de gestion assez conservateur. C'est un choix, hein, c'est un choix de maison. Et donc ça nous porte assez naturellement plutôt sur le marché des actions européenne. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on considère que la technologie américaine est un secteur qu'il ne faut pas regarder. Au contraire, il y a une rupture technologique certaine. Loin de nous l'idée de en regardant les valorisations, de dire qu'elles sont forcément excessives, parce que, encore une fois, les indicateurs de valorisation sont basés sur des projections de bénéfices à 12 mois. Et quand on achète une action technologique, évidemment, l'idée, c'est de se projeter bien au-delà des 12 prochains mois. Donc, ce qui peut paraître très cher sur un horizon court, pas tellement. Simplement, nous, on essaye, pour reprendre ce que monsieur disait tout à l'heure, on essaye d'adapter les portefeuilles au profil des clients. Donc, les clients qui ont un appétit pour le risque, on va plus facilement les engager vers la technologie américaine. On a des fonds spécifiques pour cela parce qu'on pense que ce n'est pas une bulle. Il y a une rupture technologique réelle, il y a une reconfiguration de l'hégémonie américaine autour de la technologie, et donc ce serait passer complètement à côté du sujet que de mettre en avant uniquement des indicateurs de valorisation pour dire on n'achète pas. Donc pour les clients qui sont prêts effectivement à s'engager dans la durée avec des profils plus avec plus d'appétit au risque, on est prêt à y aller. Et à l'inverse, disons dans nos fonds destinés à une clientèle qui gère en bon père de famille,
plus conservatrice,
pression qui nous est donnée, c'est vrai que l'univers des actions européennes nous semble
plus tranquille.
Plus approprié, si évidemment les actions, ça constitue quand même un risque néanmoins, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de risque sur les actions européennes, mais en tout cas voilà un petit peu la manière dont on construit les allocations.
Rapide tour de table, en quelques secondes chacun, qu'est-ce que vous attendez du message de la Fed cette semaine? Ça va être l'événement là dans les prochains jours, Florent?
Pas de baisse de taux.
Ouais. Voilà. Pas de baisse de taux ce mois-ci. Peut-être bientôt ou pas horizon.
Avant la fin de l'année, sans doute une, mais pas maintenant. Ouais.
D'accord. Gilles?
En effet, la confirmation d'un message pour l'instant d'immobilité et une augmentation des questions ou des challenges par certains investisseurs de savoir si la posture n'est pas trop restrictive en la matière compte tenu de l'évolution à venir et actuelle et à venir de l'inflation.
Je rappelle, la Fed immobile, c'est une politique monétaire qui est toujours un peu plus restrictive, hein, au fur et à mesure que l'inflation décélère ou
absolument, d'autant plus que le prix des commodités et des commodities a été en forte baisse depuis quelques mois. Ce qui favorise des taux d'inflation bas au global à court terme et ce qui a notamment favorisé les marges des entreprises.
Le pétrole, effectivement, a pas mal rebaissé de 10-15 dollars là, au cours des dernières semaines. Adil, sur la Fed?
Immobilisme, ça, oui, je pense que c'est consensuel.
Oui, pour ce mois-ci, même pour la réunion de juillet, il n'y a pas de raison que Powell ouvre quoi que ce soit pour le prochain meeting également.
Personnellement, je ne pense pas. Ouais. Peut-être qu'il évoquera le sujet NFP encore et l'emploi.
L'emploi, oui.
Voilà, etc.
Ouais.
Mais je ne pense pas qu'il y aura d'ouverture. Voilà. Et encore une fois, data dependent, c'est encore une fois le mot-clé qui va revenir encore et encore.
Et donc rendez-vous en septembre, ce sera un peu ça l'idée, quoi.
On verra la prochaine élection.
Ouais. Oui, 5 novembre, bien sûr, comment l'oublier. Merci beaucoup, messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Adil Amor, directeur général de Schellschorr Prince Gestion, Florent Delorme, stratégiste chez MNG Investments, et Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS.